Bonsoir à toutes et à tous. Nous allons commencer cette présentation. Je voudrais tout d'abord remercier la librairie Mola, bien évidemment, de nous permettre de présenter notre livre. Je voudrais vous remercier à vous tous aussi qui avez pris la peine de vous déplacer et remercier M. Dufault, représentant du rectorat qui est là, Marie Soubra, l'Institut Cervantes qui est là. Nous sommes très honorés de votre présence. Et puis tous les amis de l'Alliance française qui sont là, et représentants aussi d'Objectif Aquitaine. J'ai vu un monsieur Alain Ribet aussi, a demandé à ce qu'Objectif Aquitaine soit présent. Et puis bien évidemment, mes collègues, présidents et auteurs, Claude Jean, nouvel administrateur de l'Alliance française, que nous accueillons avec le plus grand plaisir, et Madame Delabarre, la directrice de l'Alliance française, et puis Cécile qui est là, qui prend des photos, et Monsieur Fouchereau qui sont aussi du personnel de la maison Alliance française de Bordeaux-Aquitaine, et tous les collègues aussi que je vois, notre trésorier, notre administrateur Paul qui, lors d'un intermède entre ses multiples voyages à l'étranger, nous fait le plaisir d'être avec nous. Merci Paul. Bien. Les 30 ans de l'Alliance française, comme on l'a dit, c'est un bel âge, 30 ans. Et nous l'avons fêté dignement, on va certainement en parler. Certains d'entre vous ont pu y assister. Ça a été fêté à la Maison de l'Europe, à la médiatique de Mérignac, au Conseil général, à l'Athénée municipal de Bordeaux. Et le point d'orgue a été le concert de Jordi Savall au Rocher de Palmer. Nous en reparlerons. Je dois aussi vous demander de bien vouloir excuser deux des auteurs de ce livre, « Les 30 ans de l'Alliance française de Bordeaux-Aquitaine, une histoire de francophonie », Monsieur Jean-Marie Plane, qui est à côté, mais il est modérateur, je crois, pour Florence Delay, qui est là aussi, dans les salons de Mola, et puis Monsieur Claude Lesbats, qui a écrit aussi dans ce livre à propos de Duhamel, de Mauriac et des liens qui existent entre l'Alliance française et Mauriac et du Turon et Duhamel, et qui est retenu au Pays Basque pour des raisons personnelles. Voilà. Donc nous avons choisi, j'ai demandé à Claude Jean d'avoir la gentillesse d'être le modérateur pour cette présentation. Donc merci Claude et je te laisse la parole.
Bon, merci cher président pour cette belle et brève introduction, c'est la règle du jeu. Donc nous allons essayer d'évoquer ces 30 ans de vie mouvementée et parfois aux épisodes surprenants ou inattendus de l'Alliance française de Bordeaux-Aquitaine. Et il me revient donc de poser des questions. Rassurez-vous, elles ne seront pas complètement inattendues. On est quand même dans un exercice relativement convenu et classique, mais sait-on jamais. Voilà, alors je voudrais commencer par me tourner vers ma voisine, mais avant cela, je fais comme on dit dans le cinéma, un retour en arrière. En français, flashback, je crois. Et donc, avant ce rétro-pédalage, comme on a dit, je crois, il n'y a pas si longtemps, je vous propose que l'on jette un regard rapide sur l'Alliance française aujourd'hui dans ses activités, je dirais, les plus quotidiennes, qui sont, il faut quand même le rappeler, un objectif très, très précis de formation d'étudiants aux différents niveaux. Et comme jeune administrateur, ça se voit à la couleur de mes cheveux, en tout cas récent, plus récent que jeune, j'ai été étonné lors du dernier conseil d'administration, la dernière assemblée générale de l'Alliance française, d'entendre un certain nombre de chiffres concernant les dernières saisons et la répartition, d'après leur pays d'origine, des étudiants. Alors pour cela, je voudrais inviter Catherine Delabarre, la directrice de l'Alliance française, qui nous a présenté ses résultats, de les rappeler dans les grandes lignes, et ça nous donnera une idée de ce que fait l'Alliance aujourd'hui dans le domaine de la formation et de l'enseignement, puisqu'il y a également tout le volet culturel que nous évoquerons aussi plus tard. Et à partir de cette rapide image contemporaine, on pourra revenir en arrière. Catherine, s'il vous plaît. Voilà.
Bonsoir à tous. Donc, l'Alliance française de Bordeaux, c'est aujourd'hui environ 1700 étudiants différents qui viennent chaque année chez nous. C'est environ aussi 11 000 heures de cours vendus par mois. Ça veut dire que l'école accueille environ une dizaine, douzaine de classes le matin, 8 à 10 classes l'après-midi et des cours du soir également. Voilà, donc le développement de l'Alliance s'est fait essentiellement sur les 5 dernières années, on va dire, avec une période difficile un petit peu aux alentours de 2005, puis une croissance à nouveau. Voilà, donc l'Alliance aujourd'hui ne fait que se développer et progresser, donc c'est un bon signe et c'est encourageant et nous en sommes très heureux. Nous recevons environ entre 80 et 90 nationalités différentes dans l'année. Voilà, pour vous donner un petit peu une idée de nos étudiants qui ont entre la grosse majorité entre 20 et 30 ans et qui viennent pour des séjours relativement courts, entre une semaine et deux mois, quelquefois un peu plus. Hein, quelquefois, c'est plus pour des cours, par exemple, l'après-midi, où c'est des gens qui sont sur la durée, des jeunes filles au pair, par exemple, et qui restent sur 7-8 mois de l'année scolaire. Voilà, et nous avons un gros pic également l'été, notamment le mois de juillet, où nous attendons, là en ce moment, un grand, grand nombre d'élèves venant d'un peu partout, de tous les pays du monde. Voilà, je crois que j'ai fait un petit tour.
Je crois qu'il serait intéressant, pardon Catherine, de donner très rapidement aussi, et dans les grandes masses, justement, les principaux groupes de quels pays viennent-ils ?
Oui. La première nationalité enregistrée de l'Alliance, c'est les Espagnols. Les seconds sont les Chinois. Et après, nous avons des Américains, des Anglais, des Italiens. Enfin, voilà, un mélange d'Européens et d'extra-Européens. Des Sud-Américains également, des Coréens ou des Japonais. Voilà, ce sont les nationalités, on va dire, principales de l'Alliance.
Voilà, alors on verra au cours de la soirée, enfin de ces quelques instants que nous allons passer ensemble, que ce n'est pas par hasard que ces étudiants-là viennent particulièrement à Bordeaux. Il y a tout un travail en amont et ça fera l'objet d'une des questions que j'aimerais poser au président précédent et actuel. Alors, pour les tout débuts, puisque nous avons fêté cette année les 30 ans, ça nous renvoie donc à 1982, à la première période, premier président, Jean-Marie Plane, dont on a dit qu'il était excusé pour... il n'est pas très loin, mais enfin, on peut peut-être aller le chercher, d'ailleurs. Après tout, on va peut-être permuter, je vais aller dispenser... essayer de dispenser quelques talents là-bas aussi. Donc, lui a été quand même président pendant pratiquement une quinzaine d'années, de 83 à 98. Et alors, je ne veux pas provoquer quiconque, mais en 1983, il s'est passé quelque chose de très important. Et c'était un grand anniversaire d'une vieille dame qui était l'Alliance française de Paris, qui avait ses 100 ans cette année-là, car elle a été fondée en 1883. Alors, naissait presque, disons, l'Alliance française de Bordeaux, qui devait venir Bordeaux-Aquitaine, avec, à l'ombre, ou dans le sillage, plus exactement qu'à l'ombre, de cette grande ancêtre, l'Alliance française de Paris, et il y a eu l'année du centenaire, de très grandes festivités que Jean-Marie Plane, d'ailleurs, évoque dans sa prestation. Ces premières années, je passerai rapidement, vous pourrez voir vous-même, avec le talent qu'on lui connaît, comment Jean-Marie Plane les évoque. Disons, pour les résumer atrocement, mais les présidents qui lui ont succédé pourront me contredire. D'ailleurs, je suis là pour les provoquer, quelque part. Donc, hésitation entre une association culturelle, à vocation culturelle, et le lancement, modeste, il faut dire, au début, de cours de français avec des hauts et des bas et des succès, des endormissements, des réveils, mais avec une volonté ferme d'installer réellement une alliance française à Bordeaux. Alors, on arrive ensuite à la présidence de Bernard Puel, qui a exercé cette responsabilité pendant deux mandats successifs, de 1998 à 2006. Et je dirais, pour lui passer la parole, que les débuts ont été, il le dit d'ailleurs, il le rappelle avec force détail qui éclaire cette situation, les difficultés du lancement d'une entreprise, je n'hésite pas devant le terme, à vocation spécifique, qui est l'enseignement, non pas du français, mais du français langue étrangère, ce que l'on a appelé le FLE dans le jargon, et qui est vraiment quelque chose de très spécifique qui sera évoqué au cours de la soirée. Oui, Monsieur le Président.
Pardon, Monsieur le modérateur. Juste avant de passer la parole à Bernard, sur Jean-Marie Plane, moi, je dois dire que j'ai découvert des choses très, très intéressantes. D'abord, pourquoi le père de Jean-Marie Plane, Georges Plane, était un ami intime de François Mauriac et de M. Duturon, parce qu'en fait, le premier président a été M. Duturon.
Claret.
Oui, non, il a été secrétaire.
Il était secrétaire. Ensuite, il y a été Duturon, et ensuite, il y a eu Plane.
Claret était secrétaire, et Duturon était le président. Il n'est pas resté longtemps, c'était un homme de lettres aussi. Alors, juste quelques anecdotes que nous sortons.
Pas trop, parce que non, mais juste la queue est longue, là.
On n'est pas pressé.
Et les lettres, par exemple, qu'échangeait le père de Jean-Marie Plane avec Georges Duhamel pour commander du vin. Si tout à l'heure on a le temps, on pourra lire quelques extraits. C'est vraiment...
Claude Lesba aussi.
Ce sont des perles de littérature. Ouais. Oui, Jean-Marie Plane raconte cette commémoration des 100 ans de l'Alliance française à Paris, où l'ouverture quand même se fait à la Comédie française, la fermeture se fait à la Sorbonne, et ils sont reçus dans les palais de l'Élysée. Il raconte comment il est impressionné par la marche de François Mitterrand, l'immobilité qui avance, et il a sa même impression après par le pape Jean-Paul II à Rome, hein, où il parle de skateboard pontifical, et tous les deux, il les compare, parce que ces deux personnalités avancent dans une immobilité qui impressionne. Voilà. Et donc, il y a plein d'anecdotes croustillantes dans ce livre. Je vous livre ceci pour vous donner envie d'aller voir. Pardon, Claude.
Non, mais c'est moi qui dois, au contraire, jouer les mouches du coche. Voilà, il est 6h25 et nous avons une heure devant nous pour rappeler tous ces souvenirs, pour débattre, échanger, parce que naturellement vous aurez la parole. Je le dis parce que le plateau technique m'a prévenu qu'à 19h30, on est sous alarme, alors il faut sortir avant. Exactement. Mais enfin, en une heure, on a le temps d'évoquer tous ces souvenirs et de répondre à vos questions. Nos présidents sont naturellement tout prêts à le faire. Donc, ces débuts d'un enseignement plus structuré, plus spécifique, c'est ce que Bernard Puel vous avez voulu, et ce que vous avez monté, je dirais, avec une équipe rapprochée, presque à la force du poignet. Je me souviens d'anecdotes de déménagement, etc., allant de la rue Ferrer au Chapeau Rouge, puis dans des locaux du Goethe-Institut pour, je dirais pas finir, pour renaître dans ces locaux que nous connaissons aujourd'hui, rue Abbé de l'Épée.
Oui, bonjour. Bonjour. Je voudrais dire un mot d'abord de l'Alliance française en tant que telle, parce que ce qui est intéressant aussi de savoir, c'est de connaître, c'est l'originalité de cette structure. Ça fonctionne d'une drôle de façon, parce que c'est très costaud comme fonctionnement, étant donné, et c'est très peu habituel dans la tradition française, au lieu de faire quelque chose de très jacobin, chaque alliance dans le monde est une unité autonome, non pas indépendante, mais complètement autonome financièrement et administrativement. Et de façon très intéressante, ce sont les personnalités locales qui décident de leur propre chef de fonder une alliance française. Et ce sont évidemment tous des étrangers, souvent quelquefois même des gens qui ne savent pas parler français, mais qui s'intéressent à la musique, comme dirait le japonais dont je ne me rappellerai jamais le nom. Tu te rappelles le nom, je ne sais plus, qui parle de la musique du français et qui l'associe à Mozart. Et de la même manière, on peut être intéressé par cet aspect de la chose. Donc ces gens-là, si vous voulez, fondaient des alliances. Et ce n'est qu'ensuite, alors que l'Alliance de Paris, qui est une organisation selon la loi 1901, sur les associations, qui donnait son label Alliance française à ces organismes en fonction de leur manière de marcher, d'aller. Et alors à partir de ce moment-là, il y avait tout un, comment dirais-je, enfin, Paris venait visiter ces alliances, leur procurer souvent une aide matérielle, une aide en personne, en professeur, et souvent avec un directeur, il y avait le président local et le directeur. Et alors chaque année, en janvier en général, il y a un grand jamboree de toutes les alliances du monde. Et c'est absolument fascinant de voir au 150... Quelle est l'adresse là,
boulevard Raspail.
100 combien 151, je crois, boulevard Raspail.
Enfin, non, mais
peu importe. De toute façon, vous n'avez pas l'intention d'y vous y rendre tout de suite. Et il y avait donc ces grandes réunions dans lesquelles on voyait absolument la terre entière. C'était extraordinaire. Je me rappelle notamment un jour, nous étions dans la salle de l'horloge, le salon de l'horloge, reçu par un ministre des Affaires étrangères, qui n'était d'ailleurs pas très brillant, tant que je me souvienne. Et il y avait tout ce monde-là, debout. Et j'avais devant moi une dame qui était large comme une armoire normande et qui avait une pelisse, certainement d'ours de Sibérie, vous savez, qui la recouvrait entièrement. Et évidemment, je pensais à ces bandes dessinées où on voit tous ces guerriers, si vous voulez, venus de tous les pays. C'est dans Lucky Luke, je crois. Bon. Et là, j'avais cette vision de tous ces gens étrangers. Mais c'est vrai qu'il y a des gens, il y a même à Ushuaïa, il y a même une alliance française. Je connais une parente, une nièce de nos cousins, qui est partie là-bas et qui est finalement restée. Je ne sais pas si elle a été séduite par le climat, mais toujours est-il qu'elle y est encore. Voilà. Donc voilà un peu l'Alliance française. Donc si vous voulez, un climat d'indépendance et de solidarité avec un seul objet, disons, fascinant, c'est la langue française. Et ça, moi, je trouve ça tout à fait intéressant. Bon, j'ai appris ça lentement, parce qu'au début, nous n'étions même pas intégrés. Parce que, bon, c'est vrai qu'il y a eu peut-être des choses brillantes avant. Je ne cherche pas, je m'en fiche personnellement. C'est pour moi, tout ça, c'est du passé. Mais nous sommes partis, vraiment, nous sommes partis de zéro. Je me rappelle quand Monsieur Leray, le docteur Leray, Jean-Philippe, un de mes amis de vieille époque, qui m'appelle un soir et qui me dit « Bernard, viens donc voir, il y a des choses qui peuvent t'intéresser ». Bon, j'arrive. Et puis je vois une dame, Massis, mademoiselle ou madame Massis, qui était un professeur et qui était là en train de raconter combien elle en avait par-dessus la tête de cette alliance qui marchait plus ou moins mal. Il y avait 10 étudiants, je crois, dans l'année, n'est-ce pas, ou 15 au maximum. Et d'ailleurs,
j'avais noté 20 comme comme ça, mais j'étais sans doute optimiste. Voilà.
10, 15, 20
donc
mois,
on était parti à cette époque-là de 20, effectivement.
Les quantités ne me troublent pas. Toujours est-il que nous, pendant la dernière partie de l'année, puisque nous avons commencé au 1er octobre, nous avons eu en tout 15 étudiants. Bon, c'est vous dire que c'était plutôt pas réjouissant. Et alors, bon, ben, nous sommes partis là. Moi, personnellement, j'avais qu'une idée, c'était de faire de l'enseignement. C'est ça qui m'intéressait. Je ne connais rien à l'administration, rien aux finances, encore moins. Et ma foi, j'ai été tout d'un coup chargé de devenir président, alors que je n'avais rien demandé. Et monsieur Leray était le trésorier. Et nous avons démarré comme ça. Alors, si vous vous rendez compte, il y avait quand même toute une série de choses à mettre en place. Une équipe de bénévoles, une équipe d'enseignants, une équipe de personnes chargées de l'hébergement des familles, dans les familles. Ça faisait pas mal de choses que je les ai notées parce que quand même, bon, il fallait s'occuper des locaux, du matériel. Nous n'avions rien, pas une machine à écrire, rien du tout. Et puis, il fallait s'occuper, si vous voulez, de se faire connaître. Parce qu'on n'était pas connus, même à Bordeaux. Je vous donne un exemple. J'ai été voir avec Catherine, elle s'en souvient. Et c'est marrant. On avait été voir le chargé des relations internationales à Bordeaux. Je connais son nom.
On ne va pas le nommer.
Je ne le dirai pas. Bon. Mais on avait pris rendez-vous. Ah, il nous a dit, tiens, il y a une Alliance française à Bordeaux. Mmh. Eh bien, je ne savais pas. Bon. Ouais. Alors, ça demande. On est vraiment parti de très bas.
Je ne veux pas l'excuser, mais vous savez, l'une des découvertes que j'ai faites finalement, personnellement, assez tardivement, alors que je pensais très bien connaître l'Alliance française et les alliances à travers le monde,
c'est
qu'il y en avait en France. Et dont certaines faisaient un travail tout à fait remarquable.
Ah oui,
dont celle de Bordeaux, grâce à votre impulsion.
Avant nous, pour l'instant, nous étions à zéro. Donc nous n'existions même pas. Parce que Paris, nous ne nous avons même pas encore reconnus. Il nous a reconnus à partir du moment où nous avons commencé à installer nos statuts et fait notre premier rapport, comme dans toutes les alliances. Un rapport annuel qui a été approuvé, je me rappelle, en 1999. Et c'est à partir du moment-là que nous avons été intégrés et que l'année suivante, je crois bien, c'est en 2000, que nous avons été invités à Paris dans le fameux Jamboree dont je vous parlais. Et voilà donc. Et c'est ainsi que ça a démarré, que les choses ont démarré. Voilà, alors bon, vous raconter ce qu'il en est de tout ça, ça demanderait beaucoup de temps. Qu'est-ce que je peux dire?
Beaucoup de choses, parce que vous avez beaucoup écrit et dans le détail. Si vous voulez, on va peut-être enchaîner dans la chronologie, revenir ensuite sur des points plus particuliers que vous avez très bien exposés sur la recherche de partenariats.
Parler des bénévoles, de nos premiers collègues bénévoles. Et parler également des premiers contacts avec l'étranger.
Voilà. C'est
alors, les premiers bénévoles, ce fut Jean-Philippe Leray, Françoise Ouzelot. Ensuite, il y a eu Jean-Pierre Viard. Ensuite, il y a eu Pierre Taveau, qui est quelqu'un qui nous a énormément aidés, qui est un ingénieur aussi efficace que modeste et aussi sympathique que discret. Il y a eu Brigitte de Charentenay, qui a été un moment un peu mon aide, pratiquement d'aller ensemble voir toutes les administrations, ce qui était pour moi une véritable corvée, et pas facile à mener, surtout que les gens ne nous connaissaient pas. Alors ils nous écoutaient d'une oreille, ils ne portaient pas une oreille passionnée par nous. Hein. Bon. Ensuite, il y a eu Catherine Delabarre.
Chantal Legal.
Et puis après Chantal Legal. Il y a eu d'abord Louis Brun. Il y a eu Jean-Pierre et Françoise Bégry, et puis il y a eu Chantal Legal, alors qui, après Brigitte de Charentenay, a été une celle qui m'a aidé le plus, parce qu'elle m'a aidé à me débrouiller dans toute l'administration. Ensuite, il y a eu Yves Petit, et puis alors Bardet, et ensuite Georges Viala et Alain de Gênes. Avec qui nous avons pris contact vers la fin de mon mandat. Alors, pour l'étranger, nous avons, parmi les contacts que nous avons cherché à avoir, parce qu'évidemment, l'Alliance française ne vit que de contacts, Il y a eu deux choses. Il y a eu une chose, une première chose qui a été très efficace, c'est que nous avons fait un site et que nous avons eu une adresse mail. Et à l'époque, ça ne se faisait pas. Même en France, nous avons été la première alliance à le faire. Je crois même avant Paris. C'est les temps anciens. En tout cas,
Catherine est moins audacieuse.
Les alliances de province, en tout cas les alliances de province, nous étions les premiers. Et puis ça nous a évidemment rapporté pas mal de contacts. Et puis ensuite, alors, eh bien, nous sommes partis. Alors la mairie nous a beaucoup aidés. Monsieur Juppé, qui était intéressé par l'Alliance française, d'abord parce qu'il a une parente qui est en Espagne, je crois, à l'Alliance française. Ensuite, parce que il est très ouvert à tout l'international, et ça lui paraissait.
Je crois, excusez-moi, mais en tant que ministre des Affaires étrangères sous son premier mandat, il a rencontré les alliances et vu sur le terrain
quel était le
rayonnement, notamment lorsque. Excusez-moi de rappeler un souvenir personnel. Lorsque j'étais conseiller culturel à l'ambassade de France à Lisbonne, au Portugal, il y avait un réseau, et il y a toujours un réseau extraordinaire d'alliances françaises. Alain Juppé les a rencontrés, et ça a été un grand moment. Et il a toujours considéré que les alliances ont un rôle essentiel dans ce que lui-même a appelé, et le mot est resté, la diplomatie culturelle.
Moi, je me souviens personnellement aussi, à une époque où j'allais en Pologne, à Cracovie, pour des cours, et pas du tout, c'était du temps où j'étais professeur, je me rappelle avoir été reçu à l'Alliance française de Cracovie, qui est dans un bel immeuble, d'une famille patricienne du coin, ex. Et je me souviens, nous avions assisté à une séance d'un acteur qui s'appelait Raymond Kous, qui faisait un one-man show, magnifique d'ailleurs, ça s'appelait Enfance. Et nous avons dîné ensuite. Et le lendemain, ensemble, lui et moi, nous sommes partis à Auschwitz en taxi. Et nous avons visité Auschwitz ensemble. Donc c'est un vieux souvenir. Et en effet, j'ai vu à l'époque quel l'esprit familial y avait régné dans ces établissements à l'étranger. Et combien il y avait un rayonnement qui partait de là. Bon, quant à nous, notre premier contact, ça a été avec les Américains, comme dirait Tati. Un jour, tout à fait au début, je reçois un coup de téléphone. Nous étions dans une petite pièce à rue Ferrer. Je reçois un coup de téléphone. Bon, je prends le téléphone et j'entends une dame, une Américaine, qui habitait Paris, dans le quartier de la Coupole. Là, ils ont une belle maison. Tout à fait décoré à la manière protestante d'ailleurs, avec des salles extrêmement sombres, mais enfin belles. Et là, elle nous a dit, voilà, elle m'a dit, écoutez, voilà, nous cherchons un établissement pour un groupe de d'Américains qui veulent se familiariser avec la langue avant de suivre un cours à la Sorbonne et de passer l'année. Bon, j'ai été tout à fait frappé qu'on nous ait choisi. D'abord, ça s'est fait en plusieurs temps. Elle a pris contact, qu'elle a pris contact avec nous, qui existions à peine. Hein. Et d'autre part, qu'elle nous choisisse. Alors ça a été un des premiers contacts avec l'étranger, qui a donné lieu à beaucoup d'échanges. Enfin. Et alors c'est à ce moment-là que j'ai eu l'occasion de voir un peu ce que c'était que l'université américaine, avec les directeurs qui étaient là pour diriger les étudiants et s'occuper de tous leurs besoins. Et c'était des grands spécialistes, souvent. Il y en avait un qui était très drôle, dans son sérieux, qui s'appelait Clark Mainz. Alors ce monsieur était végétarien, grand spécialiste de la... De l'architecture monastique médiévale en France, en particulier d'un certain monastère Saint-Jean à Soissons, qui n'existe pas, qui est en terre.
Qui n'existe plus, enfin.
Que je connais, oui. Et dont il a fait les fouilles et qu'il a développé.
Pardon, oui.
Et voilà. Et donc, ce monsieur qui a dirigé ses étudiants, c'était un type sympathique que j'ai accompagné successivement à Saint-Émilion, à Sarlat, à Sauk.
C'était un spécialiste des réseaux hydrauliques, si je me rappelle bien.
Voilà.
Saint-Émilion,
voilà.
Ça ne l'a pas trop gêné.
Non. Saint-Émilion, il ne s'est pas occupé de ça. Mais à la Sauve Magère, c'était la première fois de ma vie que je voyais ça. Il y a des tours magnifiques. On pensait qu'il allait voir ça, pas du tout. On a passé l'après-midi, lui et moi un peu après, par solidarité, les genoux dans l'herbe pour chercher les traces, en effet, et voilà. du circuit hydraulique, avec la place. Alors, on a reconstitué la place de la salle à manger, du lavabo des moines, en fait, etc. C'était assez drôle et sympathique et original. Et puis, il a été à Saint-Macaire, dans mon pays natal. Il a examiné la belle basilique avec un théodolite. Et je me suis dit, ça y est, Saint-Macaire va être dans un bouquin américain, dans un enseignement universitaire américain. J'étais assez fier de la chose. Bon, voilà. Et puis voilà, enfin, je ne vais pas rentrer dans tous les détails. On a été en Allemagne, où on a été très mal reçus par l'attaché culturel. C'est très curieux.
Ils ne sont pas tous bons, n'est-ce pas, chers voisins.
À celui-là, il m'a vraiment snobé. Quand j'ai été le voir, j'avais pris rendez-vous, il a refusé de me recevoir.
Oui.
Alors j'étais un peu étonné de ça.
Il faut dire pour nos amis devant nous, amis de l'Alliance française, que, hélas, souvent à l'étranger, et Alain de Gênes a vécu la même chose que moi, certainement, il y a eu, c'est estompé aujourd'hui, Dieu merci, mais il y a eu toute une époque où il y avait une espèce de rivalité entre le réseau public, disons, qui
et
était celui des instituts, les instituts français sous l'égide des ambassades, etc., donc le circuit, entre guillemets, officiel, et le circuit privé, parce que c'est dans tous ces pays, chacune des alliances étrangères a un statut qui correspond à la loi locale. Ouais. Donc, bon, on a réussi, Dieu merci, et je pense, et je sais qu'Alain fait la même chose, on a réussi à surmonter cela, mais ça n'était pas toujours, toujours évident.
C'est une erreur.
C'est pour ça, c'est pour expliquer.
Ce doublon est une erreur, c'est une dépense inutile.
Enfin, moi, je peux même ajouter qu'on m'avait recommandé, surtout, on m'avait dit, vous n'êtes pas Alliance française, vous êtes Institut français, c'est pas la même chose.
Très bien.
Bien sûr.
On faisait la même chose.
Oui, en grande partie, oui.
Enfin, bon, voilà, écoutez, je vais pas insister. Si, je parle de nos effectifs. Parce que finalement, en 2005 ou 2004, nous avons eu quand même 2731 étudiants dans l'année. Et puis, il y a eu une baisse soudaine en 1986. En 2006, pardon, excusez-moi, merci, à cause de tout d'un coup, les Chinois ont fermé le robinet. Alors, ça a fait baisser les effectifs qui sont repartis ensuite. Voilà, bon.
Oui, ça peut jouer dans les deux sens, hein, puisque, comme vous l'avez dit très bien, ils peuvent remonter. Parce que ça, ce sont les aléas politiques et indépendants de la volonté des alliances qui, par définition, sont apolitiques, mais qui sont à la merci des événements et des décisions, parfois, des gouvernements étrangers. Alors, ce que je voulais dire, c'est que, et je ne veux pas vous flatter, Bernard Puel, vous avez laissé un bel héritage, un riche héritage à votre successeur.
C'est vrai que nous avons essayé les plâtres. Essentiellement,
oui,
nous avons essayé les plâtres.
Georges Viala, ce que j'ai beaucoup aimé dans votre récit, c'est que finalement, tout le monde le sait, vous êtes un intellectuel, un universitaire, et vous dites vous-même peu rompu à l'exercice de la gestion.
Pas du tout.
Et vous avez fait vos classes avec un certain nombre
avec
de collaborateurs,
dont
Catherine, Catherine Delabarre à nos côtés. Et vous avez appris et vous avez laissé, je disais, un héritage significatif à Georges Viala.
Ça, je dois dire que ça a été ma préoccupation.
Oui, vous l'avez très bien fait.
Ce sera mon dernier mot.
Non,
mais vraiment, quand je me suis dit, voilà, 86, ça suffit comme ça. Et 2006, décidément. Ça ne fait rien, vous voyez ce que je veux dire. Donc, au bout de 8 ans, je me suis dit, ça suffit comme ça. Et j'ai pensé activement, dès même avant, à trouver un successeur. Et alors c'est là que je commençais à m'inquiéter, parce que c'est toujours pareil, il y a ceux qui se présentent, qui frappent aux portes, qui ne sont pas forcément ceux qu'on souhaite. Et puis il y a ceux qu'on souhaite et qui ne sont pas là. Et alors c'est pas facile, parce qu'il faut trouver quelqu'un de qualité qui soit en même temps, disons, un jeune retraité. Et c'est très rare. Alors là, j'ai eu une chance inouïe, parce que Chantal Le Gall, qui était une vieille copine de Georges Viala, m'a dit, mais allez donc voir Georges Viala, il aime beaucoup l'international, il sort de l'école de management dont il est le président et qu'il a triplé, quadruplé les effectifs. Et voilà, alors un matin, je me pointe, j'ai mis mon plus beau costume, et puis j'arrive pile à l'heure du rendez-vous, et j'ai fait mon petit exposé. Et ce qui l'a séduit, ça je m'en suis rendu compte, mais ça j'avais prévu la chose, c'est que je l'ai invité au fameux Jamboree du mois de janvier, n'est-ce pas, au moment où il y a tous les étrangers, et nous étions à la salle de l'UNESCO avec, quel était le conférencier,
Dominique Volton,
qui nous a fait un petit exposé brillant. Et il y avait, je ne sais pas combien de personnes, c'était formidable. Ça donnait une impression de puissance magnifique. Et à la sortie...
Il a été très sensible.
Georges Viala m'a dit, vous pouvez compter sur moi, je serai président.
Voilà. Et voilà. Très bien. Donc, permettez-moi en deux mots de vous... Enfin, on n'a pas besoin de vous présenter, Georges, mais... vous le dites vous-même dans votre excellent papier, vous n'avez pas de connaissance particulière de l'Alliance française, détaillée de ses activités, etc. Et vous êtes arrivé dans cette entreprise en gestionnaire, avec une vision de gestionnaire, spécialiste, Bernard Puel l'a très bien dit, du management et... des relations internationales.
Ça alors, changeait tout.
Je fais un stop là, juste une petite pause sur le management, parce que j'ai bien dit management, et j'ai plaisir devant des amoureux du français à dire que c'est un des plus vieux mots de la langue française. C'est un mot qui remonte, qu'on avait déjà au Moyen Âge. Alors qu'on nous l'enlève pas, qu'on nous le laisse pur et
on
simple. Comme on l'a pratiqué dans l'école supérieure de management de Bordeaux, qui a été dirigée par Georges Viala pendant très très longtemps, et donc qui, à ce titre aussi, avait déjà le goût, je crois, et qu'il a gardé, des relations internationales, d'où son intérêt à cette grande célébration annuelle que vous avez rappelée, qui est la réunion des alliances chaque année à Paris, au début de l'année, si je me souviens bien, et qui réunit disons, environ un millier de ces alliances à travers le monde. Et c'est un grand moment, c'est un grand moment d'échange, c'est un grand moment de la francophonie. On parlera de francophonie parce que, évidemment, c'est le sous-titre du livre, mais c'est pleinement fondé, c'est pleinement mérité. C'est un combat pour lequel une institution comme l'Alliance de Bordeaux est très, très fortement engagée à travers les formations, bien entendu, mais aussi à travers les activités culturelles que vous avez souhaité développer aussi.
Oui, effectivement, quand Bernard m'a proposé de m'intéresser au sujet de l'Alliance française, je ne connaissais pas grand-chose, si ce n'est pour les avoir, en avoir visité quelques-unes à travers le monde, à travers mes voyages, mais je mesurais pas l'intérêt et l'ampleur de ce réseau. En fait, je considère, après ces quelques années, que vraiment les alliances françaises sont un trésor caché de la France, mal connu des Français eux-mêmes, qui ont toujours tendance à dénigrer tout ce qui se fait de bien dans notre pays. Et pour autant, là, nous avons un trésor absolument inestimable, qui est la langue et la culture française. Et j'avais, pour tout dire, une image un peu désuète de cette institution. Et je me suis assez vite rendu compte, en la fréquentant de manière un peu plus assidue, et notamment à partir de la rencontre annuelle des alliances françaises, que la francophonie était une idée moderne et non pas quelque chose de nostalgique, de ringard, de défendre la langue française au nom de je ne sais quel passé révolu. Donc aujourd'hui, et la francophonie est vraiment quelque chose d'extrêmement moderne. C'est au moins un message que je voulais faire passer ce soir. Au moment même où on parle de la... où toutes les idées sont mondialisées, où les projets sont mondialisés, plus que jamais, la diversité est à l'ordre du jour. On sait très bien que cette mondialisation qui est en marche ne peut pas se développer de manière harmonieuse sans reconnaître ses différences et sa diversité. Et il se trouve qu'en lors du premier colloque des Alliances françaises auquel j'ai participé en janvier 2006 sur l'invitation de Bernard, ce colloque se tenait quelques semaines après l'adoption de quelque chose de très important par l'UNESCO, qui est la reconnaissance de la diversité culturelle. Vous savez que dans le monde, il y a un certain nombre d'organismes qui sont chargés d'harmoniser les pratiques. Alors vous avez au niveau du commerce, moi je connaissais l'histoire de l'Organisation mondiale du commerce qui a tendance à uniformiser les pratiques. On a tendance dans ce monde mondialisé à vouloir tout uniformiser. Et puis là, il y avait quelque chose absolument invraisemblable qui était justement de reconnaître la diversité culturelle et d'éviter que nous soyons laminés par une seule culture. En l'occurrence, on voyait bien venir la culture américaine. Les Américains s'opposaient à cette reconnaissance de la diversité culturelle qui était promue par l'UNESCO, sous l'impulsion, il faut le dire, à l'époque, de Jacques Chirac, qui a quand même été un extrêmement actif dans cette démarche de reconnaître la diversité culturelle. L'UNESCO a reconnu cet acte très important. Et du même coup, bien, toutes les langues du monde sont reconnues à leur juste valeur, et le français comme les autres. Au passage, je ne sais pas si vous, et vous le verrez dans le livre, il est question du nombre des langues parlées dans le monde. Il y a plus de 6700 langues parlées dans le monde, on a du mal à l'imaginer. Et le français dans ces 6700 langues, alors beaucoup de langues sont des langues orales, notamment je pense à l'Afrique, et le français reste quand même une langue très très vivante, et grâce encore une fois au formidable réseau des Alliances françaises. C'est aujourd'hui la 8e ou 9e langue parlée à travers le monde, avec 200 millions de locuteurs parlant le français à travers le monde. Et c'est une langue qui est en expansion, quoi qu'on en dise, même si les Français sont en doute et sont sceptiques en disant « mais non, c'est l'anglais », etc. Je peux vous dire, pour voyager comme beaucoup d'entre nous à travers le monde, que le français reste vivant, ne serait-ce qu'à travers ce réseau. Vous avez chaque jour dans le monde 450 000 étudiants qui sont dans des alliances françaises en train d'apprendre le français. C'est quand même considérable. Et le réseau des alliances françaises est aujourd'hui le premier réseau culturel du monde, avec des caractéristiques que Bernard a rappelées, qui sont tout à fait exotiques. Et le fait que ces alliances françaises soient pilotées, soient gérées localement par des autochtones, c'est-à-dire que l'alliance française aux États-Unis est dirigée par les Américains, en Australie, ce sont des Australiens, etc., alors que les autres instituts culturels que l'on connaît bien, que ce soit l'Institut Cervantes, dont il y avait une représentante tout à l'heure, le Goethe-Institut, etc., ces instituts culturels sont en général gérés, même dirigés par des gens originaires de ces pays. Donc l'Institut Cervantes est dirigé par des Espagnols, le Goethe-Institut est dirigé par des Allemands, etc. Les alliances françaises sont dirigées localement par des gens donc étrangers. Je vous cite très simplement une anecdote. L'Alliance française de Melbourne est dirigée et présidée par un Australien. Et tenez-vous bien, cet Australien, il a un appartement où ? À Bordeaux.
Oui, voilà. Absolument.
Donc c'est quand même incroyable.
Rue Camille Godard.
Oui, Camille Godard. Voilà, donc vous voyez que
c'est une bonne adresse.
Voilà, donc il y a le réseau des Alliances françaises, c'est un formidable réseau. Je voudrais simplement revenir sur une anecdote, moi, sur un fait historique. Claude Jean évoquait sur les 100 ans de l'Alliance française de Paris, et vous dire disons l'influence que l'Alliance française de Bordeaux peut avoir. Il faut savoir que l'Alliance française de Paris, en 1883, a été créée par un ambassadeur qui s'appelait Cambon, et par Pierre Foncin, qui était un géographe de Bordeaux, de la Société de géographie de Bordeaux, qui a été prof à Bordeaux pendant à peu près 6 ou 7 ans, de 1876 à 1882, et en 83, Il part à Paris, il est nommé à Paris, prof de géo à Paris, et il participe à la création, il a été secrétaire général de l'Alliance française de Paris, président de l'Alliance française de Paris, en 1880, dans ces années-là. Et dans le conseil d'administration de l'Alliance française de Paris, en 1883, il y avait quelques personnalités comme Ferdinand de Lesseps, comme Jules Verne, bon, des gens un peu connus. Quoi. Voilà, oui. Et donc c'est quand même extraordinaire cette histoire. Et il faut savoir que 130 ans plus tard, en 2012, là, l'Alliance française, le réseau des alliances françaises du monde, est dirigé par un Bordelais. Les Bordelais sont toujours très influents au niveau des alliances françaises. Et c'est un Bordelais aujourd'hui, Jean-Claude Jacques, qui est le secrétaire général des alliances françaises, dont une partie de sa famille est ici à Bordeaux. Vous voyez l'importance. Et Bordeaux a toujours eu une relation à l'étranger, une relation aux autres, une relation à l'international, bien sûr, très importante. Et malgré notre caractère girondin, on aime bien quand même influencer, la capitale.
Et Bordeaux qui a eu le premier consulat américain.
Premier consulat américain, fait, évidemment. Oui.
Dont le superbe siège est un monument historique majeur de la ville.
Hôtel Fenwick, quand vous avez Georges,
j'ai relevé dans ce récit passionnant quelques points sur lesquels... Alors, évidemment, cet engagement, ce militantisme authentique en faveur de la francophonie, on y reviendra peut-être en évoquant le projet que vous avez souhaité lancer et... Alain-Pierre de Gênes a repris le flambeau avec vaillance, la création d'une chaire sur la francophonie. On aura, je l'espère, le temps d'en parler un petit peu. Mais pendant votre mandat, vous avez eu de grandes ambitions, comme votre prédécesseur pour l'Alliance française, notamment dans le domaine d'activités disons culturel de grande visibilité avec des rentrées solennelles, etc. Je me rappelle avec bonheur de vous avoir accueilli à la DRAC en 2008 pour cette rentrée dans la chapelle des Annonciades, qui est un monument historique que tous les Bordelais connaissent. Mais bon, il y a d'autres événements, et en particulier la coopération avec les instituts culturels de Bordeaux à travers la création d'un réseau, le NIC, etc. Votre goût, mais pas surprenant, compte tenu d'où vous venez, si je puis dire, pour la modernisation des méthodes, en s'appuyant sur ce qu'on a appelé les nouvelles technologies, et bien sûr... la recherche de spécificités bordelaises, voire aquitaines. Je ne veux pas faire de jeu de mots, mais bien sûr, on pourrait écrire tout un chapitre sur l'Alliance française, le vin et le surf, par exemple.
Oui, effectivement, j'ai après le mandat de Bernard, qui avait très opportunément... lancer ou relancer l'Alliance française autour des activités d'enseignement qui étaient indispensables. De toute façon, une Alliance française, donc vous avez bien compris, c'est à la fois des cours et puis également des activités culturelles. Une Alliance française ne peut pas vivre sans cours. Les cours sont payants par définition, pour rester, disons, pour être concret. Et les activités culturelles ne peuvent se développer de manière, utile et moins importante qu'à partir du moment où l'activité de cours et d'enseignement est développée. Bon, moi, j'ai eu la chance d'arriver après que cette période de lancement des activités de cours ait été lancée par toute l'équipe autour de Bernard. Et donc, j'ai eu l'avantage, je me suis dit qu'il fallait absolument que, le volet culturel de l'Alliance française de Bordeaux soit développé. Ne serait-ce que pour bien affirmer l'identité de l'Alliance française et rappeler que, bien sûr, que la langue est importante, mais la culture et la langue sont quand même deux éléments en permanence à relier entre eux. Donc, et faire en sorte que l'Alliance française ne soit pas simplement identifiée comme une école, comme d'autres, parce qu'il y a beaucoup d'autres écoles de langue, ici à Bordeaux comme ailleurs, des écoles privées, vous avez l'université qui a également qui propose des cours à Bordeaux 3 ou dans d'autres universités. Et je me suis dit, et avec mes collègues du conseil d'administration d'Alliance, qu'il était peut-être opportun de développer tout un panel, tout, disons, d'activités culturelles. Donc on a pris un certain nombre d'initiatives en lançant des rentrées solennelles, en fêtant la francophonie, en organisant des colloques, etc. Et ça a été, je pense, assez bien reçu, ne serait-ce que pour ensuite, ça a permis peut-être, ça a participé au développement de la notoriété assez faible, dont Bernard parlait, de l'Alliance française ici à Bordeaux. Les Bordelais eux-mêmes ne voyaient pas très bien à quoi ça servait. Je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui ils soient tout à fait conscients encore de l'intérêt d'une alliance française, puisqu'effectivement, ça paraît un peu incongru d'avoir une alliance française en France. Ça s'en dit long d'ailleurs sur la perception de l'étranger par le français. C'est-à-dire que les Français n'imaginent pas qu'il puisse y avoir des étrangers en France, puisqu'en fait, les alliances françaises, en quelque sorte, n'accueille que des étrangers. Il faut savoir qu'il y a 100 000 étrangers chaque année qui viennent en France pour apprendre exclusivement le français. 100 000 par an. Et il y en a 25 000 à peu près, 25 à 30 000 qui viennent dans les alliances françaises. Et les Français sont quand même étonnés que des étrangers viennent apprendre le français. Alors, ils ne sont pas étonnés que des étrangers apprennent le français à l'étranger, mais quand ils viennent l'apprendre en France, ils sont quand même sidérés. Donc c'est pour ça que les alliances françaises en France se sont développées. Et donc à Bordeaux, Catherine l'a rappelé, qu'il y a presque 2000 étudiants qui passent à l'Alliance française de Bordeaux, on a du mal à le croire. Il y a 2000 étudiants, un peu moins, 1700 étudiants l'année dernière, qui sont passés à l'Alliance française de Bordeaux, de 90 et quelques nationalités. Vous avez des gens du monde entier qui sont à Bordeaux. Les Bordelais, je ne suis pas sûr qu'ils soient conscients de cette situation. Vous avez des nationalités tout à fait exotiques d'Azerbaïdjan, etc. Et donc, ça prouve bien que le français reste attractif, que la France reste attractive et que Bordeaux, en l'occurrence, est particulièrement attractive, puisqu'au cours de ces dernières années, mais c'est Alain qui en parlera mieux que moi, puisque c'est depuis son mandat que finalement l'Alliance a vraiment pris son envol. Il était temps qu'on passe la main avec Bernard. Et donc, aujourd'hui, l'Alliance française a pris une ampleur considérable qui témoigne de l'attractivité, ne serait-ce que de cette ville. Je pense que ça a coïncidé d'ailleurs plus ou moins avec le classement UNESCO.
Il y a certainement l'attractivité de la ville, et vous le dites très bien, le fait de la labellisation UNESCO, ça a joué, on voit très bien aussi sur, disons, le tourisme d'une façon générale. Mais ce que j'ai beaucoup apprécié en lisant ce livre, c'est l'ambition. L'ambition ces dernières années de l'Alliance française en allant au-devant d'une exigence de labellisation qui n'était pas évidente. Je crois que vous pouvez en parler aussi bien.
Effectivement, nous étions. On était très attachés à l'idée qu'il fallait vraiment que l'Alliance française soit la qualité des cours, que la qualité de son organisation, etc., soit reconnue par des organismes externes. Parce qu'on peut très bien s'auto-proclamer comme étant particulièrement brillant, intéressant, etc. Mais c'est encore mieux quand vous avez des organismes externes qui viennent vous évaluer. Et c'est une démarche que nous avons engagée quand j'étais président, parce qu'il y avait une opportunité qui se présentait à travers ce qu'on appelle le CIEP, le Centre international d'études pédagogiques, qui labellise des structures de ce type en France, pour vérifier la qualité de l'organisation, de l'enseignement, etc. Et nous avons été les fers de lance de cette labellisation des alliances françaises. Beaucoup étaient assez réticents, parce que c'est jamais très agréable d'être évalué sous toutes les coutures en disant « Attendez, ça ne va pas, ça, il faut absolument revoir tout ça », ou « Vous êtes absolument, vous avez pas les, vous avez, vous êtes pas aux standards internationaux, etc. » Et nous avons eu, malgré tout, avec un travail assez acharné, nous avons été labellisés pour la dernière fois en 2009. Ce sont des accréditations qui sont, ou des labellisations qui sont accordées pour des durées limitées de 4 ans. Et donc, en 2009, on a été labellisé comme étant une alliance française de grande qualité. Donc, aujourd'hui, il y a 7 ou 8 alliances en France qui le sont, parmi les plus importantes, dont Paris, Lyon, etc. Et Bordeaux est une alliance française labellisée. Donc, c'est extrêmement important pour nous, car ça témoigne de la qualité, encore une fois, des cours qui sont proposés.
Je ne voudrais pas Mais je voudrais dire un mot quand même, parce que notre souci dès le départ a été de la pédagogie. Or, la conception de la pédagogie que nous avions était, je dirais, à trois pôles. Bien évidemment, la connaissance de la langue, comme dans toutes les autres écoles de français langue étrangère, mais ici ajouter deux choses, deux pôles. Un premier qui était tout de même le fait d'être tourné vers la vie professionnelle, la possibilité d'utilisation de la langue. Et c'est à ce moment-là qu'on a commencé à mettre cette échelle européenne. Ça a été initié par Paris, ça. C'est-à-dire qu'il s'agissait d'obtenir des examens qui permettent de classer les étudiants par échelon, et un échelon qui soit pas seulement spécial à la région et à la France, mais qui soit européen. Et c'est un système maintenant qui fonctionne en Europe pour toutes les langues européennes. Et il y a toute une série de classements. C'était le deuxième temps. Et le troisième, j'insiste, parce que c'est vrai que c'est dès ce moment-là, nous étions déjà conscients que l'importance d'une langue comme le français, surtout, il y a des langues plus instrumentales, peut-être, sans disqualifier l'anglais dont la littérature est magnifique, n'est-ce pas ? Mais il y a une différence entre l'anglais qu'on apprend dans les écoles et puis l'anglais langue culturelle aussi. Mais la langue française est quand même, je dirais, insérée dans un contexte culturel, littéraire, musical, etc., etc., d'une telle richesse qu'il faut que les étudiants en prennent conscience. Or, nous étions très aidés par le fait de la ville de Bordeaux, précisément. Une des choses qui est frappante, moi, je me souviens, puisque nous avions pris contact avec Munich, notamment, et il y avait tout un groupe d'étudiants de l'Université de Munich qui venaient. Et je me souviens un jour à la mairie, une jeune fille qui me dit « Mais Bordeaux, mais c'est magnifique !» Et elle était absolument séduite par la beauté de cette ville. Et ça va de pair avec la musique de la langue, etc. Tout ça faisant un ensemble auquel on essaye d'introduire les étudiants et qui, quand même, ça va avec la cuisine. Enfin, il y a toute une série de choses qui ont été faites dès le départ. Je me souviens qu'on recevait les Américains. Les premiers jours, on les recevait dans un restaurant et puis ça commençait comme ça. Voilà, excusez-moi.
Oui, ça me permet de revenir, vos propos me permettent de revenir, et ce sera un petit peu la partie finale avant de répondre aux questions du public, à la francophonie, hein, cette réalité complexe, mais très forte, à travers le monde, souvent ignoré des Français, effectivement, et c'est bien dommage. Et ça a été un projet de Georges Viala, qui n'a pas eu le temps de réaliser, de concourir ici à Bordeaux à la création d'une chaire, mettons ça entre guillemets, de la francophonie. En fait, c'est quelque chose de plus complexe sur le plan universitaire. Et une bonne nouvelle, notre président actuel va nous en parler maintenant. La chose est lancée, elle est amorcée. Je pense qu'on peut être aujourd'hui optimiste. Et puis, je pense qu'on peut terminer aussi sur en revenant au réseau extraordinaire des alliances françaises sur le plan international, à l'étranger. À la prospection à laquelle, justement, une ville comme Bordeaux, grâce à l'image qu'elle a, la région Aquitaine également, peut se permettre pour attirer des étudiants chez elle. Et j'ai lu avec délice les péripéties, les aventures moscovites et autres de notre ami Alain de Gênes.
Bon, excusez-moi, avant de laisser la parole à Alain, si vous permettez. Simplement pour la francophonie, cette idée de la chaire de la francophonie nous a été suggérée à l'occasion d'une rencontre à l'Académie française. Et si je vous dis ça, c'est simplement pour vous inviter à, si vous êtes un tant soit peu amateur et curieux de la culture et de la langue française, je vous recommande régulièrement d'aller sur la radio de l'Académie française, qui est sur Internet, s'appelle Canal Académie. Allez sur Canal Académie, vous avez là un trésor, des trésors de disons, de, de rencontres, de témoignages des académiciens français, bien sûr, mais d'autres sur tous les sujets qu'ils soient sur lesquels vous pourriez être intéressé. Canal Académie, c'est vraiment une quelque chose à ne pas rater. C'est probablement un outil d'information tout à fait précieux.
Voilà, si vous voulez être branché, allez-y.
Oui, mais moi je voudrais simplement dire ce que je ressens en nous écoutant. D'abord, ce sont les liens très forts de la ville de Bordeaux, que ce soit avec la grande dame Alliance française de Paris ou la nôtre déjà. Ce lien avec Bordeaux est quand même très fort. La deuxième chose, c'est qu'on a une chance incroyable ici à Bordeaux pour notre alliance, c'est que Catherine, quand même, elle est là depuis le début. Et ça, c'est un atout considérable. Hein, c'est un atout considérable. Catherine, elle peut prendre tous les postes au sein de l'Alliance française, depuis l'accueil, en parlant pour l'hébergement, pour l'international. Elle est capable d'assumer tout. Ça, c'est une chance incroyable que nous avons, je voudrais le dire ici. Alors, donc imaginez, moi, le plaisir que j'ai à être président d'une association avec tout ce qui a été fait avant par mes collègues ici présents. C'est que du bonheur, c'est presque facile. Ils ont lancé les fondations, ils ont donné de l'élan à cet établissement. Et bon, moi, c'est vraiment avec plaisir que je me mobilise pour développer, pour essayer de faire aussi bien qu'eux. Hein, en 4 ans, pour développer cette alliance française. Des chiffres vous ont été donnés, 500 000 étudiants qui apprennent le français, c'est l'alliance française, c'est 8 000 bénévoles, c'est 12 000 agents, c'est 300 personnels sous la tutelle du ministère des Affaires étrangères. On pourrait comme ça lister des chiffres qui sont quand même parlants et qui donnent une idée de l'importance de ce réseau qui est, c'est vrai, sans être orgueilleux, qui est certainement un des plus importants réseaux culturels dans le monde. Alors, cette chaire... Alors, pourquoi cette chaire qu'on appelle maintenant des études francophones? D'abord, c'est dans les principes fondamentaux de l'Alliance française. Au début, parmi les principes fondamentaux de l'Alliance française lorsqu'elle a été créée, c'était promouvoir la langue française et la pensée française. C'était le terme « pensée » qui était utilisé. Maintenant, les principes, les mots ont changé. C'est toujours défendre la langue française, bien évidemment, mais aussi les cultures francophones. Hein? Donc, c'est dans les principes fondamentaux de l'Alliance française. Donc, c'est tout naturellement que nous participons à notre modeste place à la création et à l'étude d'une chaire dans la nouvelle université de Bordeaux, qui va prendre officiellement rang, je crois, en 2014, hein, Monsieur Dufaux, vous me corrigez. Et alors, moi, nous sommes vraiment heureux parce que c'est bien d'avoir un projet aussi ambitieux, mais on a voulu quand même qu'elle soit au sein de l'université. Et l'université est autonome. Il fallait d'abord avoir le feu vert des universitaires. Nous l'avons. Hein, Monsieur Thunon de Lara, on a eu une chance inouïe de réunir à cette table ronde dans les lieux de la DRAC Aquitaine, hein, qu'on remercie au passage. On avait quand même des personnalités de très fortes, puisqu'il y avait le conseil régional qui était présent avec Madame Cocula, la vice-présidente. On avait Monsieur Xavier Nors, qui était le délégué général du ministère de la Culture pour la langue et les langues de France. On avait Monsieur Cerchiglini, qui est le recteur des universités francophones, qui était là. On avait Madame Sunadur-Labrov, qui est adjointe à Monsieur Juppé, mais qui est aussi au ministère maintenant, qui est devenue inspectrice générale, mais qui a un œil quand même sur tout ce qui est relations européennes et internationales. On avait Monsieur Hoffmann Martineau, qui est le directeur de l'Institut des études politiques. On avait donc Georges, évidemment. On avait Claude Jean, l'ancien directeur de la DRAC, qui est chargé en plus de suivre plus attentivement ce dossier. Il y avait M. Delmoudi aussi, qui est notre vice-président et qui est aussi un ancien à la Commission européenne. Hein, il était dans la culture. Et il y avait M. Jean, Catherine et moi.
Jean Dubois de Gaudusson,
je martyrise toujours son nom.
Qui est bien connu à Bordeaux.
Voilà, qui est bien connu. Bref, est-ce que j'ai oublié?
Non,
et il y avait Monsieur Alexandre Perrault, bref.
Voilà, bien sûr. Et ce que je trouve important, Alain, c'est que le président du Presse, donc Thunon de Lara, a chargé le directeur de Sciences Po, Bordeaux, dont voilà. Tu parlais tout à l'heure, Monsieur Hoffmann, Martin Hoffmann, de diriger le groupe de travail chargé d'élaborer le projet. Ce groupe s'est déjà réuni et déjà sur des voies, disons, concrètes, que je trouve concrètes.
Voilà, on a déjà défini
que... Pour rassurer s'il y avait des inquiétudes.
Alors, le principe de la création de la chaire est adopté par le corps universitaire. Et deux, on a plutôt choisi, parce qu'il y a deux types de chaires, ça. Soit une chaire de recherche, soit une chaire d'études. Et la chaire de recherche, c'est lourd. Hein. Il faut des moyens financiers très forts au départ. Donc nous verrons...
Un titulaire permanent.
Voilà. Nous verrons dans quelques années. Donc nous allons commencer piano par une chaire d'études, où il s'agira de faire venir des experts, des professeurs qui sont très pointus dans des domaines des études francophones. On va faire un diagnostic, un état des lieux de ce qui se fait sur les études francophones. Donc voilà, c'est en marche et M. Martino mène ça de main de maître. Voilà. C'est ce que je voulais dire. Ça, c'est un projet qui nous tient à cœur parce que, bien évidemment, nous avons toute notre place, comme je vous l'ai dit, en raison des principes fondamentaux de l'Alliance française, les cultures francophones. Eh bien, à Bordeaux, nous pourrons dire que s'il y a une chaire d'études francophones, nous y serons un peu pour quelque chose.
Bien, ça mériterait une nouvelle réunion, comme je le disais. D'ailleurs, je me tourne vers le président de l'Alliance pour qu'il y pense, parce que je crois que le sujet mérite d'être à la fois approfondi, parce qu'il y a des tas de questions qui se posent, et aussi peut-être mieux connu.
Juste deux exemples pour dire, quand je dis c'est une richesse, le fait de s'accaparer de notre langue. Regardez au Québec... Il n'appelle pas, par exemple, un directeur. Chez nous, c'est un directeur de la Lyonnaise des Eaux. Chez eux, c'est le gouverneur de la Rosée. Hein, ça a quand même une autre dimension. Hein. Le gouverneur de la Rosée, c'est quand même plus joli que le directeur de la Lyonnaise des Eaux. Ou bien la station-service, chez eux, c'est l'essencerie. Voilà, et puis là, je pourrais vous en citer des tonnes. Quand même, quand on entend ça, on voit que notre langue française... prise et déformée comme ça par des gens d'ailleurs, c'est une richesse incroyable, c'est une pépite.
Bien, avant que la pépite n'explose, je pense que on va en rester sur cette belle perspective de la francophonie, ces belles réflexions sur la francophonie qui sont aussi un des combats de l'Alliance française. Et je crois que nous pouvons... tous remercier les présidents précédents, le président actuel, de leur conviction, de leur force de conviction et de leur action, de leur engagement pour ces belles causes. Merci.
Merci Claude, merci à vous tous.